With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain à Futur. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Rav, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci encore une fois de m'accueillir dans Poulain Rafute. C'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter un petit peu partout dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro. Bref, où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. Si ça ne remplit pas son frigo, ça flattera un petit peu son ego. Et puis, de cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te repasse la main, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité exceptionnel. On va dire que c'est un petit peu un cousin, si j'ai bien compris, Raph.
Oui, alors je vais partir sur une anecdote, et il y en a tellement justement sur ce mec. Il n'a pas hésité un seul instant à traverser la France, décollant de Madrid pour atterrir à Paris, sautant dans sa voiture pour descendre à Oyonnax, où nous nous sommes retrouvés avec notre pote Toffer dans cet hôtel, bar, restaurant près du stade Charles Maton pour siroter quelques bières avant la finale de Pro D2 de notre ami commun Salim Tebaï. C'était en 2013, et au-delà du choc thermique, parce qu'il faut quand même du courage pour passer d'un bon 25 degrés madrilène à un bon moins 5 oyonnaxien, nous avons passé une nuit absolument géniale partagée avec les joueurs et les supporters. Et il est comme ça, Greg Coupé, généreux, avenant, toujours la banane et amoureux du rugby depuis qu'il regardait avec son père le tournoi des 5 nations au début des années 80. Au fond de lui, je crois qu'il rêvait de jouer au rugby. Pote des Delannoy, Pacquivato et autres Cédric Chauveau qu'il rencontre au Loup dans les années 2000, il s'est lié d'amitié avec, bon, pas les plus finaux de la bande, mais avec ceux avec qui il aurait aimé partager un bout de vestiaire. Je ne parlerai pas de l'inauguration de son restaurant à Villeurbanne où, porté en triomphe par cette belle bande d'encoches, il a réussi à marcher sur le plafond de son bar. Je ne parlerai pas non plus des Halles de Lyon, lieu du quatrième mi-temps, bien arrosé, où avec ses mêmes acolytes, il avait acheté un banc de dorade qu'il baladait au milieu des passants, recréant l'espace d'une matinée un banc de poissons. D'ailleurs, je remarque en passant que les Halles sont quand même un lieu universel pour tout bon rugbyman qui se respecte et qui aime la quatrième mi-temps, celle qui commence en général à l'ouverture du marché au petit jour, en général le dimanche matin, et voit débarquer de Nîmes à Lyon, de Biarritz à Bordeaux, une belle bande de joyeux lurons venant s'achever à grands coups de savoureux macon blanc, d'huîtres royales d'Issigny et autres côte de bœuf saignante. Bref, vivement que ça rouvre. À l'heure où certains racontent au coin d'un tweet que le rugby se footballise, qu'il perd de ses valeurs, je me suis dit que ce serait quand même pas mal d'avoir un mec comme Greg qui vienne nous parler de son foot, qui vienne nous parler de son rugby et du foot, sport un peu méconnu, je dirais, dans la sphère rugbystique et surtout, vu son palmarès, avec 7 titres consécutifs de champion de France avec l'OL, qu'il nous raconte les similitudes qui existent entre nos deux sports. Dernière chose avant de le retrouver, je lui ai quand même envoyé 2 messages pour lancer l'invitation. Il a répondu du tac au tac. Et je vais quand même le balancer en direct, mesdames et messieurs, le mec avec quand même une heure de retard, mais il est là, tout va bien. Je me permets de dire ça, de dire que le mec est quand même voilà, répondu du tac au tac, parce que ça devient une tannée d'avoir certains joueurs, parfois notamment avec certains attachés de presse qui cloisonnent tout. Alors prenons exemple sur ce mec, sur ce genre de mec qui reste hyper accessible. J'en veux pour preuve cette nuit de bringue passée à Oyonnax. Greg a dû faire 50 photos par heure avec les supporters, aucun rafut, aucun refus. Il est exemplaire d'ouverture, et rien que pour ça, je suis heureux de l'avoir dans Poulain Rafute. Salut Greg!
Salut, mais merci. Et c'est vrai que j'avoue, je m'en excuse encore, j'ai une heure de retard, ce qui est très rare.
Ouais, mais t'inquiète pas, on sait pas.
Avant de commencer, Raph et Greg, une question, parce que quand j'écoute le portrait dressé par Raphaël, racontez-nous comment vous vous êtes connus, comment vous êtes rencontrés.
À travers le rugby, hein, c'est des rencontres qui, comme il a dit à Oyonnax, notamment, on a siroté quelques bières. Je ne sais même pas si le terme siroté est bien juste, mais on en a enquillé quelques-unes. Et c'est vrai que dans des moments aussi conviviaux et autour d'une passion qui est le rugby, bah les amitiés se font fortes. Et puis, j'ai même moi le souvenir de quelques moments aussi à Paris aussi où on s'est retrouvés aussi. Et notamment avec Alexis Vastine, si tu te souviens aussi. Ouais, Et ça avait été un moment magnifique.
Ah, on avait, ouais, c'était hyper fort. Mais voilà, je pense que c'est trois. On était trois extravertis, puis assez fort dans la passion. Et ouais, c'était fort. Moi, la première fois que je t'ai vu, Greg, et justement, mais tu t'en souviens pas parce que t'étais perché au plafond. J'étais là, moi, ce soir-là. J'étais là, ce soir-là, dans ton bar, justement, où on avait fini, t-shirt déchiré, à se mettre des grandes crêpes. Mais une fois de plus, on va s'arrêter là sur l'anecdote. Moi, la première question que je veux te poser, Greg, c'est d'où te vient cet amour du rugby? J'en ai parlé dans ton portrait. Est-ce que ça te vient justement des matchs des 5 Nations, des tournois des 5 Nations que tu regardais avec ton père? Est-ce que c'est un terrain? Est-ce que c'est l'ambiance? Je pense que c'est un tout, non?
Ouais, alors je pense que ça vient aussi d'un ami de mon père aussi qui jouait au rugby. Donc c'est vrai que c'était des réunions, bah, à l'époque c'était plus intimiste, hein, puisque le tournoi des 5 Nations, il n'y avait pas autant de rugby qu'aujourd'hui à la télé. Donc ces moments-là étaient à part et privilégiés. Et la différence, c'est que je pouvais les regarder avec des explications de rugbyman, quoi. Donc, il me disait, suis pas tout le temps sur le ballon. Regarde, il y a plein de choses qui se passent, notamment en mêlée à l'époque où il y avait un peu plus quelques battoirs qui partaient. Donc, c'était quand t'as averti comme ça, t'as un autre regard. Et c'est vrai que ça m'a permis d'apprécier aussi le rugby et notamment les rugbyman, parce que tu dis, ça, c'est le gladiateur des temps modernes, quoi.
Greg, en 2017, tu déclarais dans les colonnes de Midi Olympique, tu avais déjà accordé une belle interview au journal du rugby. Tu avais dit qu'il y avait des similitudes entre le rugby et le football. Quelles sont-elles? Parce qu'aujourd'hui, on oppose parfois ces deux sports. On oppose parfois ces deux sports, alors qu'effectivement, le rugby est un sport professionnel et on dit parfois qu'il a 10, 15, 20 ans de retard sur le football. Quelles similitudes, toi, tu vois entre ces deux disciplines?
Mes propos étaient plus axés sur... Il y a une similitude entre rugby et gardien de but. C'était... voilà. Parce que comme j'aime le dire, on a un petit peu le trait d'union, nous, les gardiens de but, entre le football et le rugby. Comme disent mes potes rugbymans, nous, les gardiens de but, on n'est pas manchots, alors qu'on est traité de manchots, ce qui est complètement normal. Mais voilà, il y a le système de défendre une ligne. Bon, nous, en tant que gardien, on la défend tout seul. Mais bon, il y a quand même quelques collègues avant nous. Donc, on est à la dernière ligne. Moi, c'est pour ça que je fais un rapport aussi avec... avec l'arrière, le 15, c'est un gardien, quoi. Et c'est quand tu interviens, c'est souvent la dernière possibilité d'empêcher un essai. Nous, c'est la dernière possibilité. Nous sommes la dernière possibilité de prendre un but. Donc, il y a quelque part un don de soi qui doit être naturel et surtout sans concession, quoi. Donc là, faut envoyer. C'est vrai que c'est ce qui me plaît dans le rugby. Moi, ce qui me plaît, c'est cette solidarité, cette capacité à être toujours fort. Et c'est vrai que dans une ligne formée par des rugbyman, on relève vite celui qui est un peu moins bien en jambes ou celui qui est un peu moins volontaire sur le jour du match. Et donc, dans ces cas-là, il se fait attaquer. Et là, s'il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de victoire.
Et une question pour vous deux. C'est vrai qu'on oppose souvent ces deux disciplines. Pourquoi on les oppose?
Bon. Ouais, enfin bon, moi je pense que c'est déjà au niveau de l'argent, hein. C'est que je pense naturellement, et moi je sais de quoi je parle, j'ai déjà vu des copains travailler au rugby, ils bossent deux fois plus que des footballeurs et ils gagnent deux fois moins. Donc je veux dire, ne serait-ce que par rapport à ça, des gens s'identifient à ça et préfèrent, on va dire, s'orienter sur des mecs qui sont encore plus besogneux et je l'avoue, c'est complètement vrai.
Et c'est l'image aussi qu'on se fait un peu du footballeur et du rugbyman, mais il faut casser un peu les clichés. D'ailleurs, je suis ancien rugbyman, Greg ancien footballeur, donc moi j'ai la chance de connaître Greg, de connaître aussi un petit peu Sinégo de vous par l'intermédiaire de Salim Tebani. J'ai fait des bringues aussi avec, rappelez-moi le nom de ce mec en fait qui était attaquant, mais tu as dû jouer contre lui justement, Greg.
John Carew.
Non, mec qui joue à Bordeaux, qui était décoloré et qui attaquant des années 2000 à Bordeaux, super connu, qui a joué, je pense, aussi en équipe de France à la fin des années 90, au début des années 2000.
Lilian Lasland,
dans le rugby aussi.
Ouais. Ah putain, alors lui, on a commencé au VIP, fini au pouce au cri, mais fini en quatrième mi-temps, pareil, rugby. Il est très très bon. Donc, pourquoi je dis ça, c'est que... En fait, c'est l'image qu'on se fait à travers les médias, à travers les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais quand tu es en billabie avec un footballeur, en fait, je dirais qu'il n'y a pas de différence. D'ailleurs, à mon avis, les footballeurs qui sortent se rapprochent un petit peu de l'état d'esprit du rugbyman, non?
Ouais, et puis moi, j'ai toujours été apprécié, on va dire, ne serait-ce que par les gens de l'extérieur, parce que je ne me suis jamais caché derrière la capacité de boire une bonne bière. Et que moi, j'ai fait du sport pour échanger, justement, pour avoir ces moments de... pour moi privilégié de partage Après, on est dans un milieu aseptisé où justement, à partir du moment où tu gagnes un peu plus d'argent, bah, tu dois être plus policé, tu dois être un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, ça se couche tôt et ça boque de l'eau. Je me couchais souvent tôt, mais quand je me couchais tard, c'était très tard.
Tôt le lendemain matin. Et c'est vrai que je le disais dans le portrait aussi, ce qui est quand même assez surprenant quand tu te balades avec Greg, surtout à Lyon, et on l'a fait deux, trois fois, mais même à Oyonnax. Greg, c'est quand même...
Même à Paris,
t'as des mecs, tu vois là, c'est à longueur de temps, la bière à la main, les mecs, c'est la collade, comme si Greg leur appartenait, et je t'ai jamais vu, Greg, justement, mettre un raffut à un mec en disant, bah non, mais je suis en train de discuter ou quoi. C'est toujours, en fait, l'ouverture aux autres, et c'est vrai que c'est quoi? C'est une question d'éducation, c'est une question de valeur, il y a un peu tout ça derrière, non?
Oui, bien sûr, bah ça, c'est clair que l'éducation y est pour beaucoup. Le fait de pas oublier aussi d'où l'on vient, aussi, je suis un petit gars de la Haute-Loire, moi, avec des origines de ch'ti, donc bon. On va dire, dans le côté convivialité, on s'y connaît un peu, et simplicité. Mmh. Après, je vais dire, je sais pas, je préfère être ouvert, que les gens soient agréables avec moi et plutôt francs, plutôt que d'avoir un mec, un faciès froid, et que les gens te regardent avec mépris ou sans trop savoir où mettre les pieds. Moi, j'aime cette simplicité. Puis après, je t'avoue que des fois, ça a pu chauffer un petit peu, hein, mais dans l'ensemble, ça a toujours été très, très agréable.
Mais Grégory, est-ce que tu connais très très bien le milieu du foot, hein, tu as fait toute ta carrière, et quelle carrière, est-ce qu'on est parfois agacé des comparaisons un peu dédaigneuses que les gens du rugby peuvent faire?
Non, pas du tout. Non, parce que moi je les comprends. il n'y a que si tu veux revendiquer le fait que non, on a plus de valeur,
les gens du foot sont pas agacés par ces comparaisons, ces réflexions?
Non, je crois que parce que si t'es lucide et honnête, tu les comprends aussi. Hein. Je veux dire, très sincèrement, sur ce plan-là, on est quand même indéfendable. Hein. Il y a une autre attitude d'un rugbyman par rapport notamment aujourd'hui aux supporters. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on est en train de vivre le Covid, et donc là, c'est juste infernal. Mais c'est là qu'on s'aperçoit que sans leur soutien, sans leur appui, il y a moins de saveur dans notre métier. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, peut-être que nous, footballeurs, on le regrette encore plus de dire « Putain, ça nous manque quand même ces rapports-là et qui pourraient être peut-être, comme c'est le sport numéro un aussi, ça attire encore plus de monde. »
Plus de monde.
Et les gens, pareil, ils ont un regard complètement différent, tu vois aussi. C'est que tu vois un rugbyman faire ses courses, c'est normal. Un footballeur qui fait ses courses, c'est presque « Ah bon, vous mangez, quoi ?» On mange, on fait nos courses, en plus, dans les mêmes magasins que vous. Tu vois, il y a un côté assez incroyable qui est un fantasme. En fait, c'est un fantasme humain de dire « Les footeux, c'est des êtres à part, ils sont sur notre planète. » Moi, j'aime bien casser ces codes-là, et c'est pour ça que j'ai toujours une relation assez naturelle avec les gens.
T'as joué un peu au rugby? Est-ce que t'as joué? Et si oui, à quel poste? Tu parlais du poste derrière. On avait le même poste. Si tu as joué justement à ce poste, avec cette liberté, comme tu dis, le dernier rempart, mais aussi une liberté d'attaque, t'as joué au rugby, Greg, ou pas?
J'ai eu la chance que d'y jouer, mais à l'école. Il faut savoir que d'ailleurs, le premier ballon avec lequel je suis allé à l'école, c'était un ballon de rugby. Et je m'en souviens très bien, c'est les ballons Adidas. Tu sais, ils étaient un peu pot de pêche, on va dire, avec les extrémités noires.
Ouais. En cuir, les fameux, en cuir, aussi.
En cuir complet, ouais.
Et un peu de pluie, tu te pétais la cheville.
Oh ouais, c'était trop difficile à capter, en fait. Mais comme j'étais fier de ce ballon, et je peux dire que même qu'il est passé par-dessus les grillages et que je l'ai perdu dans une banque à côté de l'école, et c'était la catastrophe pour moi.
Une question comme ça qui me vient, Grégory, quand on a joué comme toi un peu au rugby, qu'on adhère à 100 000% visiblement à l'état d'esprit de ce sport, une question qui va peut-être te paraître stupide, mais est-ce qu'on est parfois agacé des simulations qu'on peut voir sur un terrain de football?
Oh oui, mais alors, et là encore plus cette année, parce que comme il n'y a pas de supporters, alors je ne sais pas si avant les joueurs criaient autant, mais que ça s'entendait moins, on va dire, avec le brouhaha des spectateurs, mais là ça m'insupporte. Mais c'est vraiment, ouais, vraiment ça m'insupporte. C'est l'impression d'avoir affaire à des danseuses là qui chougnent dès qu'ils prennent un coup. Et toi, comme on aime le dire, le foot est un sport de contact. Bah, t'as l'impression qu'on le refuse, ce contact, quoi. Et j'avoue que je suis nostalgique des arbitres, même anglais, qui les laissent jouer. Et puis, bah voilà, au pire, une arcade, c'est quoi une arcade? Si tu te fais une arcade, c'est pas... Alors, OK, les coups portés sur les articulations sont des coups qui font vraiment très, très mal. Ça, j'en suis complètement conscient. je suis conscient aussi que les chaussures aujourd'hui protègent de moins en moins. Donc c'est vrai que quand tu te fais piétiner le pied, ça fait mal. Mais de là à crier comme si on avait une jambe arrachée, c'est limite.
Greg, à l'époque où tu jouais à l'OL, il se dégageait quand même de cette équipe, une ambiance où on, ouais, qu'on retrouve un peu dans le rugby. Alors peut-être de l'extérieur, mais d'un autre côté, je pense que tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde, comme on le voit avec le PSG, tu pourras aussi nous en parler derrière. Tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde si tu n'as pas l'état d'esprit, s'il n'y a pas cette notion d'équipe, s'il n'y a pas cette notion, comme tu dis, de don de soi, ça ne gagne pas. Et vous avez gagné, quand même, si je m'abuse, 7 titres consécutifs avec les Chris, avec les Govou. On sentait une vraie bande de potes. Est-ce que c'est de l'extérieur qu'on sentait ça ou c'était vraiment le cas à l'intérieur?
Non, c'était vraiment ça. Et comme je dis, on a souvent, on a gagné les années où on a le plus gagné, c'est les années où on s'est le plus marré. Mais alors, on s'est marré certes, mais on bossait comme des dingues, quoi. Après, par contre, au-delà de se marrer, c'est que tu crées des affinités aussi parce que on échangeait beaucoup. Nos femmes à l'époque s'entendaient aussi super bien, donc il y a un côté aussi. Ambiance famille aussi qui existait. Mais j'avoue que ça a été des années assez incroyables et aujourd'hui, ça reste des amis. C'est ça la différence. Aujourd'hui, j'ai l'impression vraiment qu'il y a vraiment un côté boulot, quoi. C'est les mecs font vraiment un boulot et ça vient rarement en avance et ça repart pas très tard après derrière, quoi. Donc, moi, je trouve que ça fout, quoi. Je pense que la société aussi, c'est le reflet de la société, hein, c'est que avec les moyens de communication qu'on a, notamment les téléphones, on coupe un peu toute cette communication et tous ces échanges-là de visu, et c'est vrai que ça se ressent beaucoup. Hein.
Alors j'ai une question qui me vient là par rapport à, dans le football, ces choses classiques de pouvoir quitter son club en cours d'année. Tu as vu que Gaël Ficou est sorti du Stade Français pour aller jouer au Racing. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas une question de jugement. Après, il joue aussi sur le règlement. Voilà, il avait envie peut-être de jouer le haut de tableau et ça tombe avec ce qui est arrivé ce week-end entre le derby. Le Racing a perdu contre le Stade Français. Peut-être que le Stade Français va se qualifier et peut-être retrouver en phase finale aussi le Racing, ce qui serait quand même assez énorme de se retrouver avec Ficou en face. Mais qu'est-ce que tu penses aussi de ça? On parlait tout à l'heure de que le rugby pouvait se footballiser. Moi, j'aime pas trop ce terme-là, parce que quand tu connais un peu
le
football…
Non, il s'est professionnalisé.
Oui.
C'est aussi simple que ça. Et tu regardes aujourd'hui, je pense que quand tu fais appel aux anciens rugbyman, ils trouvent cette situation horrible, certainement. Maintenant, les jeunes rugbyman d'aujourd'hui, ça fait partie du job. C'est que tu peux quitter ton club à tout moment. Mmh. C'est vrai que dans les valeurs, on va dire, de l'Ovalie, c'est un peu choquant. Mais c'est l'évolution, c'est ainsi, c'est le professionnalisme et tout est possible. Les contrats peuvent se casser comme ça du jour au lendemain. Et surtout aussi, même un joueur peut aller, on va dire presque chez l'ennemi. Je déteste ce terme-là, mais quelque part, moi, je l'ai fait en passant de Saint-Étienne à Lyon. Mais c'est comme ça, c'est le professionnalisme.
Après, c'est pas tellement les joueurs qu'il faut blâmer, c'est peut-être ceux qui font les règlements, justement, dans ces cas-là.
Oui, mais je pense que dans ces cas-là, pour nommer Gaël Ficou, les gens se disent aussi comment il peut faire ça psychologiquement. Enfin, c'est pas possible, quoi. Bah, si, c'est ça le professionnalisme. C'est malheureusement ça aussi.
Grégory, une question un peu annexe. Raph l'a rappelé, une carrière immense, 7 titres consécutifs avec l'OL. Je voudrais parler un peu de l'entraînement, parce que quand j'étais plus jeune, je revois des images de Fabien Barthez s'entraînant justement avec des ballons de rugby parfois pour travailler les réflexes. On sait qu'aujourd'hui, t'es entraîneur des gardiens. Est-ce que toi, t'as eu à pratiquer ce genre d'exercice? Est-ce que tu le fais encore aujourd'hui avec tes gardiens à Dijon?
Oui, complètement. C'est vrai que j'ai notamment à Lyon. Alors, je ne l'ai pas remonté à Dijon encore. Je devrais peut-être, d'ailleurs. Parce que ça marche pas, d'ailleurs. Hein, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est des ballons magnifiques hein, pour travailler les réflexes. Il n'y a pas plus insaisissable qu'un ballon de rugby, quelque part. Donc, c'est vrai que ça fait partie. C'est en même temps un côté ludique. C'est que c'est très sympa de changer aussi de sphère et d'être un petit peu en porte-à-faux, justement. Mais après, par contre, on ne travaille pas les belles passes vissées. Hein.
Dis-moi, on l'a dit pour ta carrière, on va pas rappeler ton palmarès. T'es quand même passé par, tu l'as dit, Saint-Étienne, l'OL, ensuite
Lyon, l'Atlético Madrid, Paris.
Ouais, voilà. Paris. Voilà, un sacré voyage. C'est aussi cette solitude du gardien. Comment tu te préparais en fait? Est-ce qu'il y avait une préparation? Est-ce que tu faisais une préparation mentale? Est-ce qu'il y avait comment se prépare un gardien quand tu sais que t'as les 10 qui sont devant toi? Il y a un peu cette solitude aussi, non?
Ah, complètement. Et puis, mais c'est ce qu'on aime aussi. Hein. Puis, il y a aussi l'intransigeance du poste. Hein. C'est que ben, quand on en fait une, ça coûte cher et elle est visible et tu repasses en boucle dans tous les JT, on va dire. Mais c'est comme ça. C'est aussi pour ça qu'on aime ce poste-là. Il est tellement atypique et spécifique que bah, derrière, il en ressort aussi du coup une personnalité. C'est que tu peux pas être gardien de but si t'as pas un fort caractère, si t'es pas prêt à assumer cette responsabilité aussi. Comme j'aime le dire, on est un peu les pompiers de service souvent. Hein. Donc, mais pour maîtriser le geste en cas d'urgence, bah faut travailler beaucoup, faut répéter beaucoup, notamment les gammes. Et c'est là où je me retrouve aussi beaucoup dans le travail des rugbyman, c'est que quand je vois comment vous travaillez les conquêtes et tout ce qui est notamment touche, je veux dire, il y a une synchronisation qui doit être parfaite, il y a un travail au millimètre. Et bah, gardien, c'est ça, c'est savoir réagir et avoir la bonne réponse aussi sur l'instant, mais dans un dixième de centième de seconde, quoi. Il faut avoir le bon geste tout en ayant une attitude aussi. Il faut être rassurant, il faut rayonner sur ta défense, et ça, c'est pas donné à tout le monde.
Tu peux nous expliquer ton plus bel arrêt? Enfin, moi, je l'ai en tête, hein, mais après, ça n'est que personnel. Hein.
Oui, bah, je vais tout de suite citer celui que tout le monde pense, c'est celui à Barcelone, c'est clair, parce que déjà, c'est au Camp Nou, c'est en Champions League, c'est un truc atypique qui ressort chaque année, et c'est vrai que par rapport à ça, quand je le revois encore maintenant, je me dis c'était bien d'être jeune et d'être tonique et fort, et parce que je pense qu'aujourd'hui je j'irais pas bien plus loin que le saut en arrière, quoi, tu vois. Voilà, c'est un arrêt de la tête et derrière un arrêt assez incroyable sur Rivaldo, ouais. Qui était aussi un grand joueur en plus,
ouais. Comment on fait Raph a énuméré les clubs par lesquels t'es passé, Grégory. Enfin, c'est juste incroyable quand même. Jouer au PSG, à Lyon, à l'Atlético Madrid. Bon, Saint-Etienne qui est un club mythique pour tous les gens de plus de 50 ans, on va dire. Pour pas être plus, pour ne vexer personne. Mais c'est quoi les ingrédients pour faire une telle carrière?
Être déterminé. Je pense que la seule chose, elle est là. Je veux dire, très sincèrement, quand on m'a sollicité pour aller à Lyon, faut savoir que je suis parti de Saint-Étienne aussi parce que Saint-Étienne était dans des gros soucis financiers, donc ils avaient vraiment besoin de vendre, on va dire, les joueurs bankable, et j'en faisais partie. Donc j'ai déjà pas eu spécialement le choix, mais même quand on m'a évoqué le nom de Lyon, j'ai pas eu de bouton, quoi. C'était pour moi l'occasion, savoir qu'on était descendu en deuxième division. Ça faisait 6 mois que j'étais en deuxième division, et donc j'y ai vu aussi que mon ambition de dire je reviens dans l'élite et c'est important pour moi. Pourtant, c'était loin d'être facile. Il fallait remplacer un grand joueur comme Pascal Olmeta et qui était adoré et adulé par tous les supporters lyonnais. Vous vous rendez compte, quand je suis arrivé, c'était le sale petit vert qui vient de Ligue 2 qui va remplacer notre grand Pascal Olmeta. Donc, ça a été dur. Et, je veux dire, si je n'avais pas eu cette ambition, cette détermination, je pense que je me serais écroulé sans problème. Mais surtout qu'en plus, les conditions n'étaient pas les mêmes à l'époque. Hein. À l'époque, les supporters pouvaient être autour du terrain. Il n'y avait pas de grillage. Hein, tout ça. Et on faisait des petits jeux. Je me rappelle, il y avait neigé. Donc, les gens étaient vraiment autour d'un petit terrain synthétique. Et je me faisais copieusement insulter. Dès que je prenais un but, on me disait bah, « ça, c'est un vrai but de Lyonnais, espèce de Stéphanois. » Quand c'est vos propres supporters qui te disent ça, parce que voilà, j'avais le fanion de l'OL sur la poitrine, tu dis ça va être compliqué, mais bon, il faut être déterminé, ça c'est clair.
Ouais. Justement, on parle de détermination, excuse-moi Raph, si on fait le parallèle avec l'équipe de France de rugby actuelle, quand tu vois la nouvelle génération, là, les Dupont, les Aldrit et tout ça, est-ce qu'ils te surprennent par justement leur professionnalisme, leur état d'esprit? On a le sentiment que, comme tu le soulignais tout à l'heure, tu disais, tu insistais sur le fait que le rugby se professionnalisait de plus en plus, est-ce que cette génération marque justement cette rupture, à ton avis?
Là où l'équipe de France m'impressionne, c'est dans cette précision, justement. On a l'impression de voir des fois jouer les Blacks, cette capacité à enchaîner des temps de jeu avec une maîtrise et une qualité technique assez incroyable. Ça va vite, c'est réactif, c'est fort, c'est puissant. En plus, derrière, j'ai l'impression qu'ils ont, enfin, ils donnent ce plaisir-là. C'est qu'il y a une vraie solidarité. Les mecs, ils s'envoient grave. C'est la classe, hein. Franchement, c'est la classe. Mais c'est vrai que c'est là aussi tout le professionnalisme, c'est que les mecs vont deux fois plus vite, sont deux fois plus costauds, pèsent plus lourd, mais vont plus vite. Enfin, c'est, je vais parler du lot avec un mec comme Tuisova, notamment, que j'ai vu briller. C'est hallucinant. J'ai eu la chance de faire un toucher contre lui. Mais tu te dis, mais comment t'arrêtes ça? Comment c'est hallucinant. C'est hallucinant. J'allais dire, j'ai eu la chance de faire un toucher aussi avec contre Olivier Magne. Je l'ai vu partir, mais il montait les genoux comme il savait le faire avant. Mais tu te dis, il faut se jeter là-dedans. C'est un suicide. Franchement, c'est un suicide. Mais c'est là où moi, ils ont toute mon admiration, c'est que au-delà du physique et tout ça, je veux dire, c'est dans la tête, quoi. C'est l'abnégation, c'est la détermination qui fait la diff.
Ouais, et puis il y a aussi le côté un peu instinctif comme un gardien de but. De toute façon, comme tu disais tout à l'heure, quand il faut y aller, tu calcules pas.
T'as pas le choix.
Exactement. Quand tu rentrais au Parc des Princes plein, moi j'ai eu la chance de le vivre deux fois, tu calcules pas tout ce qu'il y a autour. Et pourtant, tout le monde pense que ah ouais, tu joues devant 40 000. C'est pas ça que tu calcules. C'est sur le terrain, tu l'as dit, l'abnégation, c'est le mental. Tu calcules pas le fait que tu puisses plaquer les mecs aussi. Comme toi, sur cet arrêt dont on parlait, mais tous les arrêts que tu as pu faire, il y a un moment où il faut y aller. Et puis c'est l'instinct. Si tu commences à te poser des questions, et moi c'est ce qui m'est arrivé
après,
à la fin de ma carrière.
Comme on dit, une expression dans le rugby, il faut aimer le chocolat. Hein.
Oui.
Mais tu vois, c'est pas tout le monde qui aime ça. C'est vraiment pas tout le monde. Et je pense que par rapport à ça, alors je t'avoue que moi, en tant qu'entraîneur gardien maintenant, c'est ce que je recherche. C'est des questions que je me pose. C'est comment développer ça aussi, cette capacité à être agressif. Ça, c'est une chose. Mais cette capacité à souffrir et aimer souffrir. Mmh. Souffrir, c'est pas grave. Si c'est une fois de temps en temps, c'est pas grave. Mais souffrir, il faut y trouver un plaisir, ne serait-ce qu'à l'entraînement. Je veux dire, si tu veux avoir un meilleur cardio, être capable de reproduire des trucs, il faut souffrir, quoi. Mais il faut aimer souffrir. Et ça, c'est pas tout le monde.
Et donc, les générations de gardiens que tu coaches ou que tu as pu coacher depuis ton arrêt, tu sens qu'il y a toujours cette agressivité, cette envie, ou est-ce que c'est générationnel ou on l'a moins
Alors, mon plus gros souci, c'est d'avoir des gardiens leaders. Et quand je parlais de cette évolution, malheureusement, des jeunes qui se parlent de moins en moins et qui se font que des textos ou parlent à travers téléphone interposé. Après, se dire les choses, et comme je dis, c'est pas toujours s'aimer. Hein, tu peux être ami et t'engueuler. Hein, justement, c'est là où je pense la force d'une amitié, c'est être capable de se dire les choses. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué entre jeunes, mais avec le poste de gardien de but, il faudrait être capable de gueuler parce qu'il faut demander un positionnement important, savoir l'imposer, mais après aussi savoir féliciter, savoir haranguer et savoir aussi comment s'exprimer d'une personne à l'autre parce que les personnalités ne sont pas les mêmes. Tu as des joueurs et des défenseurs qu'il faut calmer, tu as des défenseurs qu'il faut piquer, tu as des défenseurs à qui il faut être rassurant. Mais ça, c'est toute une sensibilité qui est hyper importante pour diriger une défense. Et j'aurais tendance à dire que c'est vraiment sur ce domaine-là que je peine le plus depuis quelques années.
Et t'arrives à bien communiquer avec les autres, justement, les entraîneurs aussi de la défense, justement, pour arriver à trouver les bons mots. Parce que oui, c'est l'équipe sur le terrain, mais c'est aussi la communication entre entraîneurs, c'est aussi les personnalités.
C'est un sport co. Et c'est là où, quelque part, dans le football, on est beaucoup moins précis qu'au rugby où à 50 cm, se tromper de placement de 50 cm, ça coûte cher. Au foot, tu as encore cette capacité à rechigner à l'effort, à se replacer, et puis qu'on n'est pas à 2-3 mètres près. Et si, on est à 2-3 mètres près, il y a encore plus, quoi. Et c'est là où il y a encore une vraie évolution à voir dans la précision. Quand je lis et j'entends ce qu'on dit sur Nico Kovac, l'entraîneur de Monaco, j'ai l'impression qu'il a révolutionné le jeu de Monaco parce qu'il a été plus précis dans ses demandes. Pourtant, c'est exactement ce qui existe dans le rugby depuis des années. Donc voilà, je pense que le football peut vraiment se focaliser là-dessus et apprendre beaucoup du rugby.
Donc sur la professionnalisation, c'était ma prochaine question. C'est Eric Kidimeko qui disait que le rugby a presque 20 ans de retard et découvre le professionnalisme. Mais à entendre tes mots, le football pourrait aussi s'inspirer de ce qui se passe dans le rugby.
Mais complètement. Là, on parle de notions techniques, de ce qui nous est mis à disposition. Mais je vais te dire, moi, de toutes les années que j'ai travaillé en tant que joueur, j'ai pas le souvenir d'avoir fait ne serait-ce qu'une demi-heure, voire un quart d'heure de travail de touche. Pourtant, dans le football, il y a les touches défensives et les touches offensives. Et tu peux enclencher plein de choses. C'est une conquête comme au rugby. J'ai pas le souvenir d'avoir fait des séances. et tu sais que tu proposes une séance comme ça à des footballeurs, ils vont vite te dire « Oh, tu me saoules, hein. »
Ah ouais.
Ah ouais, alors, non, mais c'est… Écoute, j'ai le souvenir d'un entraînement à Marcoussi où j'ai vu juste un temps de jeu travaillé par les rugbymans de jeunes de là-haut, et où donc, c'est le demi de mêlée qui sortait le ballon, donc simulation de mêlée, et derrière, il y avait, je crois, au moins 7-8 mecs en ligne, et sur les 7-8, et donc ils partaient sur 50 mètres sprint à fond, et il n'y avait que 3 joueurs qui jouaient, tout le reste, c'était des leurres. Mais les mecs, ils l'ont fait pendant une demi-heure. J'étais ébahi, je te jure, ébahi.
Mais alors, l'état, c'est quoi ? C'est l'état d'esprit du joueur, c'est le football en lui-même, qui est un sport individuel, enfin collectif certes, mais des individualités. Est-ce que c'est la notion de travail aussi derrière ? Est-ce que le fait que ce soit des gamins qui soient déracinés aussi de chez leurs parents aussi à 10, 11, 12 ans, alors que dans le rugby on est à 14, 15, 16 ans ? Est-ce que c'est voilà, cet âge où, depuis tout petit, il y a cette notion aussi d'argent, tout l'encadrement qui t'amène à devenir professionnel ? Est-ce que c'est une forme de déresponsabilisation ? C'est les questions que je me pose.
C'est une forme d'éducation, de mentalité. C'est pas une chose qui existe dans le football. Je pense que ça va venir au fur et à mesure. Je pense que des entraîneurs comme Pep Guardiola sont certainement des mecs qui instaurent plus des schémas, on va dire, tu vois, de ressorties de balles, des choses là qui pourraient s'apparenter un peu plus à du rugby et dans la précision et dans la mécanique. Et je crois que, par contre, c'est un débat sur lequel des choses sur lesquelles je pense que les entraîneurs se confrontent régulièrement à cette capacité de proposer des entraînements. Il faut toujours un peu varier, ça c'est inévitable. Mais je pense qu'il y a des choses qui doivent être immuables dans le travail. Ce qu'on fait un peu nous en tant que gardien de but, c'est comme on dit, c'est comme un pianiste, il y a des gammes, quoi. Et comme je l'ai dit aussi, pour réagir instinctivement, ça demande des répétitions à gogo. Après, le football, c'est des séquences de jeu qui ne sont pas répétées parce que barbante, quoi. Et c'est comme ça.
En parlant de professionnalisation, il y a des choses qui peuvent choquer parfois, enfin choquer, qui sont traditionnelles dans le rugby, mais qu'on voit pas forcément dans le football. Boire une bière dans le vestiaire directement à la fin du match. Est-ce que ça se fait dans le football, par exemple ?
Ça se fait alors non, ça se fait même plus du tout parce que c'est faut pas le montrer, c'est là où moi je comprends pas, c'est là où je m'y retrouve pas du tout, quoi. C'est que moi mon plaisir c'est ça, c'est qu'après une bonne performance ou même pas une performance mais où il y a des défaites où tu peux être fier de t'être battu comme des chiens et voilà, mais t'as perdu, je veux dire, quelque part. On va dire ce moment-là de repos et surtout d'échange, parce que c'est important aussi, c'est d'échange. On refait le match, pour ne pas citer une émission, mais c'est ça. Et ça, on le squeeze parce que maintenant, dans l'image, boire une bière, ce n'est pas bien, ça fait touriste et tout. C'est là où j'ai beaucoup, beaucoup de mal, moi. C'est que dans le football, c'est mal vu. Pourtant, il me semble que j'ai vu encore, notamment il n'y a pas si longtemps, des rugbymen faire des grandes, grandes performances et se retrouver avec même leurs supporters, pour ne pas dire les hommes en jaune, et tous avec une bière à la main, quoi. Et ça, c'est la classe. C'est la grande classe, quoi. Mais enfin, pour moi, ça me paraît une classe. Alors, ce qui est une chose complètement banale et qui paraît. Surtout, moi, ce qui me dérange dans le football, c'est qu'aujourd'hui, je suis de l'autre côté, je suis avec pas mal de copains différents qui sont passés de l'autre côté et ils sont devenus entraîneurs. Avec qui j'ai bu pas mal de bières, mais qui aujourd'hui, en devenant entraîneur, ne veulent plus voir leurs joueurs boire une bière, quoi. C'est de l'alcool. Ça se fait pas. Je veux dire, c'est bizarre parce que moi je pense que c'est au contraire des moments hyper importants de communion et d'échange. Et c'est vrai que bon, après, tu le fais autour d'une bière, d'un jus d'ananas, il n'y a pas de problème, hein. Mais c'est vrai que puis à 20 ans, c'est pas le fait de boire 3 bières d'affilée qui vont te flinguer. Faut arrêter avec ces conneries-là.
Mais c'est sociétal, hein, comme tu le disais. Je pense que c'est le fait de l'interdire.
C'est l'hypocrisie. Aussi. Ouais. Pour moi, c'est l'hypocrisie et je déteste ça. Enfin, voilà,
parce que ça n'empêche pas les footballeurs de faire la fête et de se la coller, mais sans que ce soit diffusé à la télé, quoi.
Ouais, exactement. Non, mais même. Enfin, alors je vais te parler que de moi, comme ça, moi. Mais je vais dire, je m'en suis collé quelques-unes, mais le lendemain, j'étais nickel. J'avoue que si je me collais aujourd'hui ce que je me collais avant, les 2 jours qui suivent, j'aurais plus de mal, tu vois. Mais ça aussi, c'est une force de caractère, quoi, tu vois. Aujourd'hui, c'est vrai qu'après, les joueurs qui dorment pas bien et tout, on a tellement médicalisé aussi le truc que des mecs qui arrivent en disant « j'ai mal à la tête, j'ai mal dormi et tout », ah bah tout de suite, t'entraînes pas, hein, surtout, va pas te faire mal. Un peu de souci avec ça.
Ouais, bon après on va dire qu'avec modération au niveau de l'alcool, mais il est clair que c'est ce qui te permet, et je pense que l'OL n'aurait pas gagné ses titres s'il n'y avait pas eu 2-3 bonnes bringues aussi pour resserrer au moment où ça va pas, et puis dans les moments aussi d'euphorie, parce que c'est... Et je reprendrai toujours les mots de Benjamin Kaiser à Clermont, qui dit on n'a pas le temps d'impacter sur la victoire, qu'il faut penser au match d'après, et c'est un peu ça le football, parce que vous jouez quand même à deux fois par semaine.
C'est ça qui est important, c'est aussi se mettre à la place des joueurs, c'est savoir faire une pause un peu. Juste apprécier le moment, c'est que tu t'es envoyé, t'as gagné ou perdu, mais tu t'es envoyé. Je trouve que après, déjà peut-être s'il y avait peut-être un peu plus de discrétion de la vie de vestiaire, ça pourrait se faire plus naturellement sans se dire ça y est on va être filmé ou quoi que ce soit. Mais quoi qu'il arrive, ce moment de pause là, c'est pas parce que tu gagnes de l'argent ou quoi que ce soit et que t'as fait que du football ou du rugby que tu peux pas prendre ce moment-là de pause, quoi.
Voilà, justement, Grégory, je crois que tu soulignes quelque chose de très juste. Est-ce que ce n'est pas finalement la sphère médiatique qui fait la différence? Je vais prendre un exemple tout bête. Dernièrement, il y a eu l'histoire du cluster en équipe de France de rugby. Toi qui connais très bien la sphère médiatique du foot, qui est, je pense, 10 000 fois supérieure à celle du rugby, est-ce que tu penses qu'une affaire comme celle-ci dans le football, ça aurait éclaboussé Didier Deschamps plus longuement? Est-ce que ça aurait été bien pire? Est-ce qu'on en aurait fait des caisses pendant des semaines et des semaines?
Ah, je pense que quand tu as moyen de trouver de faire un buzz, c'est inévitable. Après, moi, je les ai trouvés plutôt bien solidaires sur ce coup-là. Et j'ai bien aimé, d'ailleurs. Parce qu'après, il fallait chercher le loup, hein, qui avait cassé la bulle, qui avait percé la bulle.
Le patient zéro.
Ouais, ils auraient presque dû faire des prises d'empreintes sur les canettes de bière. Ils en auraient su peut-être encore plus, mais bon, écoute, c'est de toute manière, il faut apprendre aussi à vivre avec ce Covid aussi, et on s'aperçoit que t'as beau être hyper droit, tu peux le choper à tout moment. Après, écoute, vis le truc et surtout laisser vivre les gens. Après, faut reconnaître que être enfermé, alors c'est pas enfermé, on n'est pas en prison, d'accord, je suis bien d'accord. Mais une vie de groupe, de collectif et entre hommes. C'est pas simple, hein, c'est pas simple.
Mais le rapport médiatique, pour revenir là-dessus, je pense qu'il est bien plus difficile aujourd'hui pour les joueurs de football qui sont sollicités bien en sûr. Permanence, probablement.
Oui, bien sûr, ça c'est clair. Et notamment si, par rapport à l'équipe de France, c'est encore plus fort, tu vois. C'est encore plus fort. Mais c'est, voilà, c'est là où la professionnalisation est là. Moi, ce qui m'étonne encore aujourd'hui, c'est de voir quelques joueurs encore de football se faire choper par rapport aux réseaux sociaux, quoi. T'as l'impression que c'est là depuis longtemps et qu'ils réalisent pas encore quand même de l'impact que ça a, quoi. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de boire un ou deux verres avec des joueurs et leur dire il y a pas de photo là, hein, les gars. T'es obligé de leur rappeler quand même. Là, il y a pas de photo. C'est un truc entre nous. Il n'y a pas besoin de le partager à la terre entière. Ne soyez pas débiles. Voilà.
Juste un petit point psychologique. Je voulais revenir avec toi sur le fait d'avoir du caractère. Alors dans le rugby, est-ce que le rugby permet d'avoir un peu plus de caractère, le fait que ce soit un sport de combat ou parce que voilà, on le rappelle, tu as été toi un joueur de caractère, tu n'as jamais eu trop peur de t'opposer durant ta carrière avec des entraîneurs comme Domenech ou d'autres. Donc est-ce que tu as le sentiment que le rugby est plus ouvert aux fortes personnalités ou c'est juste un mauvais préjugé?
Non, il y a pas photo. Hein. Déjà, faut avoir plus de caractère pour pratiquer le rugby. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Faut déjà être plus courageux. Il n'y a pas photo. Il y a le mec qui me dit l'inverse. Il me dit, moi, je suis footballeur parce que je suis plus courageux qu'un rugbyman. Bah, je te dis que non, c'est faux.
À part pour le poste de gardien, peut-être, Grégory. Pour être gardien de but, ouais, faut être un peu bon, des fois, non?
Non, mais même moi, c'est drôle parce que moi, des fois, c'est des potes rugbyman. Ils me disent, toi, t'es un malade, tu te jettes dans les pieds. Moi, j'essaye d'arrêter un ballon. Vous arrêtez des mecs de 120 kilos. Vous réalisez pas, quoi. Enfin, non, moi, je sais que j'aurais aimé être rugbyman, mais je suis pas assez costaud pour être rugbyman, ça, c'est clair.
Ah, oh, mais t'aurais pu aussi t'étoffer, quand même. D'ailleurs, si t'avais.
Ah, ben,
si t'avais...
Oui, non, mais ça, oui.
Oui, si t'avais été. justement, joueur de rugby professionnel, quel club? Tu sais que tu viens du Puy-en-Velay, il y a Bourgoin pas loin. Là, c'est quand même une région de rugby, quand même. Il y a Valence aussi.
L'ASM, je pense que c'est peut-être le club phare en Auvergne. Ça, c'est la grande classe. Moi, très sincèrement, j'aurais été bien partout, comme un peu au football. Tant qu'il y a des hommes, c'est des histoires d'hommes qui sont importantes. Moi, ce qui est chouette, tu vois, à Dijon, je découvre le club de rugby avec Benjamin Noireau, notamment, que j'ai retrouvé aussi à Dijon. Là, ça, c'est des choses, des échanges qui sont pour moi hyper importants. Et donc d'échanger sur nos postes, sur nos façons de travailler, rien que ça, c'est du bonheur. Alors, si en plus, j'avais dû me la coller avec eux, mais quelle classe, quoi. Tu sais, moi, j'étais fan alors pour revenir en arrière un peu, des Benetton, des Labitte, ça, j'étais fou. Aujourd'hui, c'est des mecs comme Harry Chamancy, Greg Aldrid, quelle classe, ces mecs-là, Goujon, j'adore ces mecs-là, ceux qui sont un peu dans le combat tout le temps, quoi. Tu sais, c'est incroyable. Mais en fait, dans le rugby, j'aime tout. Je suis impressionné par tout. Les deuxièmes lignes, je trouve que leur boulot, c'est un truc de fou aussi. Après, le petit faible, c'est pour le défenseur, quoi, le 15. J'adore. Hein. Et ça, c'est clair que c'est un poste qui a des vraies similitudes avec le poste de gardien de but.
Une question pour tous les deux, Raph, puisque tu posais la question sur les clubs. De ce que je perçois un petit peu de ta personnalité, Grégory, de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu entendre, est-ce qu'une aventure au Stade Français, tu parles d'histoire d'homme, et je pose la question à Raph aussi, mais Max Guazzini avait cette capacité à fédérer autour d'un projet, il a recréé le club à Paris qui n'existait pas, et là pour le coup, en termes de solitude à Paris, quand bien même t'es trois fois ou quatre fois champion de France, tu peux aller chercher ta baguette de pain, personne viendra te demander un selfie ou un autographe, donc est-ce qu'une aventure au Stade Français serait plus collée?
Ah ouais, complètement. Ouais, complètement. C'est clair. Puis en plus, Raph m'a sensibilisé un petit peu. J'ai eu la chance d'y aller avec eux et de voir la convivialité qui existait entre eux. Il y avait des mecs. Hein. Là aussi, comme par hasard, des grandes épopées. Il y a des grands bonhommes. Et je pense qu'à chaque fois, ça réunit des caractères aussi. Donc voilà. Ouais, j'ai eu la chance de côtoyer quelques-uns là. Merci pour les échanges.
Ouais, mais c'était très fort.
Collé, non?
Oui, mais moi j'ai souvenir justement, mais on parlera toujours de Brink, mais moi c'est indissociable de ma carrière de rugbyman. Alors peut-être que ça m'a coûté ma carrière, mais d'un autre côté j'ai pas de regrets parce que j'ai rencontré des mecs aussi comme Greg. On s'est fait sur la dernière de Pierrot Rabadan et Jérôme. Voilà, on s'est retrouvé aux trois obus. On était 5-6. Il y avait Salim Tebani au milieu qui est notre ami commun. On a passé un moment hyper fort et en termes de caractère, c'est clair que Greg aurait été, se serait infusé. Tu le posais comme un sachet de thé, tu vois, au milieu de tout l'effectif du stade, il se serait infusé dès le premier jour. Parce que
je sais pas si j'aurais résisté longtemps, mais je te jure, je me serais envoyé.
Non, mais là, je te parle en termes d'état d'esprit, parce que tu vois, donc ton poste, je t'ai posé la question tout à l'heure, mais tu as pas répondu. Tu voudrais jouer, vu ce que tu me dis, troisième ligne ou arrière, parce qu'à l'arrière, tu avais quand même du Cornetto.
Après, je me dis, pour se préserver, je pense qu'arrière c'est mieux, on va dire. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé troisième ligne? C'est troisième ligne qui me Et avoir toujours les mains dans le cambouis et la tête dans le coffre, là c'est un truc de fou. J'ai une grande admiration, tu vois, les Serge Benson que j'ai côtoyé aussi, c'est des mecs, j'ai une admiration incroyable.
Non, je pense que c'était le genre de mec qui aurait pu dans tout club de rugby, t'aurais été plus au fond du bus que devant, t'imagines bien, même si t'aimais mettre les mains dans le cambouis, il y a ce côté déconneur que j'aime aussi chez toi, qui t'aurait placé entre, je dirais, Franck Combat et Christophe Dominici. T'aurais juste ta place sur la banquette du fond.
Pas mal.
Et je t'aurais laissé ma place juste par respect pour les anciens, je me serais mis sur l'avant-dernier siège, tu vois.
C'est gentil.
Par respect.
Avoir conscience, Greg, quand même, que pour cette époque-là, il aurait fallu faire le calendrier des dieux du stade.
Ah oui. Là, je suis, on va dire, un peu moins fan, on va dire, dans notre côté exhibitionniste. Mais après, en même temps, j'ai trouvé tellement beau aussi ces rugbyman. Ils ont de quoi être fiers, hein, d'eux, hein, franchement.
Bon, les photos,
on va conclure, mais une dernière thématique qu'on voulait aborder, parce que je sais qu'elle tient aussi à cœur à Raph, c'est la reconversion, Grégory. C'est vrai que de l'extérieur, on a l'impression que finalement, la reconversion pour les footeurs, elle est plus facile, parce qu'on pense et on imagine que pour beaucoup, la sphère économique a permis de ne pas forcément travailler. Est-ce que c'est réellement ça? Parce que tous les footballeurs n'ont pas les salaires de Neymar ou Mbappé, j'imagine. C'est clair. Et j'imagine que la reconversion, ça se prépare, non ?
Ouais, mais après, il faut être honnête, c'est que même un footballeur, on va dire presque moyen, a déjà un très beau salaire de rugbyman, quoi. Donc, si tu fais pas trop d'erreurs et si on t'a pas trop menti sur tes placements, tu peux assurer la suite. Maintenant, c'est aussi une question de psychologie quelque part. Moi, je me vois pas, j'ai des enfants et je me voyais pas ne pas travailler, pour être honnête. Donc, c'est vrai que je l'ai préparé en étant à Paris pour une reconversion au départ dans les médias. Et puis, par la suite, tu vois, au bout de 2-3 ans, j'ai eu un peu les fourmis dans les jambes, besoin de reprendre un peu le sport. Alors, je vais rattaquer avec des marathons, des trails, des trucs comme ça. Et puis, en fait, j'avais besoin de convivialité, hein, je veux dire. Après, c'est des sports où c'est tellement fort. Là, je parle du marathon, des trails, tout ça, que moi, j'aimais bien le faire avec du saucisson et une bonne bière, voire du rouge. Donc, il y a un moment, c'est plus compatible, en fait.
Pour le marathon, j'imagine.
Ah, ça, c'est clair. Mais voilà, ça a été aussi une très belle expérience parce que j'ai rencontré aussi plein de gens très sympas là-dedans aussi. Mais c'est vrai que retrouver un collectif, c'est important, quoi. Je pense que quand tu as vécu d'un sport collectif, bah, ça te manque vite, hein. C'est clair.
Greg, ton meilleur souvenir pour conclure de rugby, c'est-à-dire, je te parle pas sur le terrain parce que tu as très peu joué, mais quoique même tes débuts à l'école.
Non, mais c'est dire Cardiff. Cardiff, j'ai eu la chance d'avoir le genou pété, et donc j'ai eu la chance d'aller à Cardiff voir notre demi-finale face aux Blacks. Et bah écoute, là déjà, ne serait-ce que l'arrivée au stade où pas de cordon de sécurité pour les supporters néo-Z. Pas de cordon de sécurité pour les supporters français. Tous se mélanger, tous se maquiller mutuellement, tous se trinquer avant le match. Hein. Et après le match, il y avait tellement aussi de compassion que c'était magnifique.
Et puis Cardiff, un vrai stade de rugby en plus.
Là, il y avait quelque chose. Hein. Oh, et puis après, voilà, ce haka, enfin voilà, la Marseillaise, tout, c'est extraordinaire, grand, grand moment.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le Loup, ma dernière question. Cette année, tu as vu ce club évoluer depuis 20 ans. Je rappelle encore les Philippe Delannoy, les Chobot, les Salim, les Paqui. Donc tous ces mecs-là, tu les as vus évoluer. Maintenant, ils sont passés comme toi de l'autre côté, mais le rugby aussi avec Pierre Mignogno. Ouais,
ils sont avec les jeunes, donc ils sont garants d'une mentalité aussi, hein, et d'une une continuité. Voilà, la mentalité est pérenne un petit peu avec des personnes comme elle. Et ils s'occupent de jeunes, et ça, je trouve ça génial. Après, mettre un mec en avant comme Pierre Mignoni aussi, Nicolas Portier, qui sont là aussi. Enfin voilà, il y a quelques-uns, David Atoub aussi, que je salue aussi profondément parce que il y a quelque chose, quoi. Il y a des mentalités, il y a des hommes aussi. Et je trouve que le Loup est en train de faire quelque chose de grand, quoi. C'est chouette par rapport à une grande ville comme Lyon d'avoir un grand club comme le Loup.
Ah, et puis il y a toujours cette pression aussi médiatique de l'OL. Et le Loup a aussi envie d'exister. Et ils le font bien. La prochaine étape, en tout cas, on leur souhaite, c'est une finale au Stade de France. Avec peut-être aussi un retour des supporters. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite à Pierre Mignoni et à ses hommes. Greg, putain, problème d'oreillette, mais personne ne le sait. Depuis le début, j'ai l'oreille rouge. Là, c'est pas possible. En tout cas, c'était un bon plaisir, je pense, pour Seb qui est à la régie, pour Arnaud et pour moi de t'avoir reçu. C'était vraiment cool. On a réussi.
C'était un plaisir. Plaisir ouais, partagé, les mecs.
Je confirme, je remercie. Et c'est vrai que je connais pas bien le football, mais j'ai été un peu supporter du PSG. J'ai vu Greg jouer au Parc des Princes, j'ai eu cette chance. Et pour moi, c'était un plaisir, une fierté, un honneur de pouvoir échanger avec toi, Greg. Et ça donne presque envie d'aller travailler dans le football parce qu'on se dit qu'il y a peut-être des personnalités un peu méconnues dans le football et qu'on n'a pas forcément cette image-là à travers les médias. Et je pense que voilà. Tous les joueurs ne sont pas inaccessibles aujourd'hui dans le football. Il faut parfois essayer de gratter et on doit pouvoir découvrir de belles personnalités comme ce podcast, Raph, nous a permis de découvrir.
Je confirme qu'il y a vraiment, il n'y a pas que des footballeurs qui sont fermés aux gens, bien au contraire. Et voilà, c'est le reflet de la société. Il y a des andouilles et il y a des gens super.
Et juste une dernière chose avant de conclure. Arnaud est un menteur parce que la seule chose qu'il aimerait faire avec toi, c'est de trinquer, bien sûr, avec modération. Ça, je le sais.
On le fera à Paris à l'occasion.
Il y a trois santé. Speeder cochon. Il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un cochon. Prends garde, Speeder cochon est là. C'est comme ça que tu finis au plafond.
Nickel, merci beaucoup.
Nous, on merci se retrouve beaucoup, Grégory.
La semaine prochaine, encore félicitations, bien sûr, aux clubs français qui sont qualifiés pour les Coupes d'Europe. On en parlera la semaine prochaine. Et d'ici là, éteignez vos téléphones, regardez par la fenêtre, la vie est belle. Greg, merci beaucoup. Rendez-vous autour d'un comptoir. Ciao.
Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.